Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Examen d'État édition 2022 en RDC, c'en est fini pour cette année. À Bandundouville, le sous-préfet Kwilu 1 met en garde tous les finalistes contre les actes inciviques qu'entraînent les réjouissances populaires à la fin de ces épreuves. Les récalcitrants seront sévèrement punis, a dit Denis Changa. Ituri, les groupes armés acceptent d'accompagner le processus électoral en cours dans cette province, annonce la CENI à Bunia. Les opérations de collecte des données pour l'actualisation des centres d'enrôlement se sont déroulées même dans les zones insécurisées, précise le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Et puis, la coopération suisse en RDC poursuit ses activités d'appui au développement jusqu'en 2025. Le coût, environ 25-29 millions de dollars. Des activités concentrées essentiellement dans les deux Kivu et l'Ituri. Pour en parler, nous recevons Denise Louti, directrice de la coopération suisse en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Quatrième et dernier jour ce jeudi de l'examen d'État édition 2022 en RDC. Dans la province du Kwilu, le comité provincial de l'EPST Kwilu 1 met en garde tous les finalistes contre les actes inciviques qu'entraînent les réjouissances populaires. À la fin de ces épreuves, les récalcitrants seront sévèrement punis, dit-il. Cette mise en garde est contenue dans un communiqué officiel signé mercredi 20 juillet par Denis Changa, prophète du Kwilu 1, des détails avec Irène Boma. Voilà, j'étais entre.
Le communiqué de service dont une copie est parvenue à Radio Okapi, le comité provincial de l'examen d'état de l'EPST Kwilu 1 informe qu'à dater de ce jeudi 21 juillet 2022, des dispositions sécuritaires sont mises en place pour interpeller tout candidat qui se livrerait aux actes qualifiés d'inciviques. Ces actes, peut-on lire dans ce communiqué, sont entre autres le fait de déchirer les uniformes ou de griffonner des scies, le fait de se constituer en cortège motorisé et circuler dans les rues, le fait de prendre d'assaut les débits de boissons, les boîtes de nuit et autres places publiques pour des réjouissances populaires, troublant ainsi l'ordre public. D'après le prophète du Kwilu 1, Denis Changa Kapinga, président du comité provincial de l'examen d'État qui a signé ce communiqué, tout contrevenant sera passible de subir la rigueur de la loi allant jusqu'aux poursuites judiciaires et mettre son école en péril. Denis Changa Kapinga dit avoir instruit les chefs des centres d'examen d'État et autres acteurs éducatifs de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer cette décision. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et en prévision de la prochaine rentrée scolaire à Gbadolite dans le nord Ubangi, l'UNICEF a financé la construction de 5 écoles primaires en appui à la gratuité de l'enseignement de base. Cependant, les travaux en cours de réalisation par l'entreprise qui a gagné le marché laissent à désirer, constat des autorités provinciales qui dénoncent cette situation et disent craindre des accidents dès la rentrée scolaire. Des précisions avec Paul Richard Malengela.
À la rentrée scolaire 2022-2023, 5 écoles primaires auront des bâtiments neufs à Gbadolite, construits par l'UNICEF. Il s'agit des écoles primaires Timari, Vekoloué, Nyaki, Liboki 1 et 2, ainsi que Ngefumba. Cependant, le ministre provincial de l'éducation du Nord Ubangi, qui vient d'effectuer le suivi des travaux, s'est dit surpris de constater le non-respect des normes de construction. Edouard Kelemba a déploré notamment le mélange des matériaux inappropriés par l'entreprise de construction. De son côté, le président du cadre de concertation de la société civile du Nord Ubangi s'insurge contre ce qu'il qualifie d'amateurisme de l'entreprise chargée de la construction de 16 écoles. Taïlo Taïmazalo.
Il y a la fatigue dans ce qu'ils sont en train de faire, donc les bâtiments présentent des dangers permanents pour les enfants et pour nous tous. Ils n'ont pas respecté les clauses du contrat donné par l'UNICEF, mais ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, c'est autre chose. C'est pourquoi nous dénonçons cela, y compris ces effets là où ils n'ont pas bien travaillé.
Le chef du bureau régional de l'UNICEF Grand Équateur a confirmé les faits. L'UNICEF est en train d'évaluer la situation sur le lieu avec son chargé de contrôle venu de Kinshasa. Le cas échéant, une autre entreprise reprendra les travaux, a dit M. Abdallah Abdel Rassoul. Bondaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Les conflits parcellaires dus au lotissement sans normes par les services habilités dans la ville de Kamina créent de plus en plus de confusion dans le chef de la population de cette ville. Pour mettre un terme à cette confusion qui prend de l'ampleur, le ministre provincial aux affaires foncières et travaux publics, Ngoy Yolo Raphaël a convoqué d'urgence mardi 19 juillet en son cabinet de travail le maire de la ville de Kamina, le chef de division de l'urbanisme, le conservateur des titres immobiliers, d'habitat, de l'aménagement et celui du cadastre pour une descente dans les différents sites pour se rendre compte de la situation. Selon Yolo Raphaël, tous ceux qui ont construit leur maison à des endroits inappropriés doivent se préparer à réparer ce tort. Le ministre provincial des Affaires foncières de Olomami explique au micro de Blaise Shindani Kambala.
Un constant maire. Hein? Alors, juste quand nous sommes descendus sur terrain, avec tous ces services que vous venez d'énumérer tout à l'heure, nous avons trouvé, il n'y a pas de respect des lois foncières, en toutes choses, des A à Z. Nous avons trouvé les gens qui ont construit leur maison dans les avenues, dans les rues, et quel que soit le règlement imposé par nos services, mais ils se sont entêtés, ils ont continué à faire le même travail. Les uns ont parlé qu'ils ont des documents, les autres, ils n'en ont pas. Alors, c'est question de prouver, comme ce n'était qu'hier, et j'ai demandé au service attitré de devoir m'appeler ces gens-là et me présenter les documents adéquats. Une fois, nous constatons que les services attitrés est en faute, ou population en faute, alors la loi sera appliquée. Parce que vous connaissez, il y a la loi portant régime général des biens, régime foncier immobilier et règlement de sûreté dans son article 55 prévoit des sanctions à ce sujet. Alors nous allons les appliquer. Je sais que la loi est dure, mais c'est la loi.
Sud Kivu, une délégation de la coopération suisse en RDC a rencontré hier à Bukavu le chef du bureau intérimaire de la MONUSCO Sud Kivu. Les entretiens entre les deux partenaires ont tourné autour des analyses à faire sur les activités qui bénéficient de l'appui de la coopération suisse dans cette province. La coopération suisse RDC entend poursuivre avec son appui au développement jusqu'en 2025 pour un financement de plus de 29 millions de dollars dans les deux Kivu et en Ituri. Madame Denise Lutti, directrice de la coopération suisse en RDC, en parle au micro de Emmanuel Elamegi.
Nous sommes acteurs de développement, nous avons une certaine importance et je pense que c'est aussi intéressant pour la MONUSCO de nous recevoir pour échanger sur l'évolution de la province. Nous travaillons dans trois secteurs. Le premier secteur est la gouvernance, prévention de conflits et la protection des civils. Après, on a la santé et nutrition et le troisième secteur est le développement économique et la formation professionnelle. C'est clair que le travail dans la province, c'est pas facile, c'est un défi majeur. Il y a beaucoup de défis point de vue de la logistique, on a des défis aussi de point de vue financier parce que les besoins sont plus grands que ce que nous pouvons faire. Mais nous croyons avec notre manière d'accompagner les autorités mais aussi les organisations ici locales, nous avons quand même un impact considérable et nous sommes contentes avec le travail entre les différentes acteurs de la coopération suisse.
Province du Kasaï, un projet de service essentiel pour la santé maternelle et infantile a été lancé hier à Chikapa, financé par la coopération britannique. Il a une durée de 3 ans et va couvrir une dizaine de zones de santé de la province. Le projet vise à améliorer la santé des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Il s'attaque également aux décès évitables des mères et des nouveau-nés. François Kadima nous en parle.
Le projet de service essentiel pour la santé maternelle et infantile est d'une importance capitale pour le Kasaï. Il vient en appui aux efforts du gouvernement congolais visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans la province. Le projet va être axé sur l'augmentation de l'accès aux services de qualité de la mère et enfant et aussi à l'autonomisation de la communauté. Pour la réussite du projet, le docteur Albert Mudingai, conseiller en santé à l'ambassade de la Grande-Bretagne, a indiqué que la coopération britannique a résolu de le financer à hauteur de 36 300 000 dollars américains et va être exécuté en consortium avec Ima World Hold, avec ses partenaires à savoir Sanwu, Asbel, Bao System et autres pour une durée de 3 ans. Cela dans des usines de santé de la province. Notons que la cérémonie de lancement de ce projet a été présidée par le gouverneur de la province du Kasaï. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Début ce jeudi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur l'ensemble de la province du Maniema. Cette campagne de 3 jours a été lancée hier par le gouverneur intérimaire de cette province. Elle vise plus de 500 000 enfants de 0 à 59 mois. L'autorité provinciale a saisi l'occasion pour exhorter les parents sur le bien fondé de faire vacciner leurs enfants. Florence Kiza, reportage.
Depuis un certain temps, la province d'Imanima occupe la première place parmi les provinces touchées par la poliomyélite, avec 74 cas notifiés sur 94 confirmés en RDC. Cette campagne de vaccination est une manière de prévenir les enfants d'Imanima, pense le gouverneur intérimaire.
J'appelle tous les parents d'amener leurs enfants à des lieux où on peut vacciner les enfants. Donc la vaccination concerne tous les ménages de la province d'Imanima. Ceux qui résistent, de ne pas hésiter, parce que la vaccination ne tue pas. Plutôt, c'est une prévention contre la poliomyélite.
Le chef de division provinciale de la santé parle de faibles couvertures vaccinales comme raison majeure de la recrudescence de polio au Maniema. Docteur Estache Bibala.
S'il s'avère que les couvertures sont faibles dans la province, il est vraiment question que les parents puissent s'impliquer pour que tous les enfants qui sont dans les coins et les recoins de cette province puissent bénéficier des deux gouttes qui sauvent la vie. La campagne a été préparée de telle sorte que toutes les 18 zones de santé soient mises en branle. L'essentiel est qu'aujourd'hui, la communauté puisse mettre la main dans la pâte en amenant tous les enfants de 0 à 59 mois pour que nous soyons complets.
La stratégie de cette campagne est de porte à porte durant 3 jours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, en Ituri, les différents groupes armés acceptent d'accompagner le processus électoral en cours dans cette province. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI l'a fait savoir au cours d'un point de presse à Bounia. Il précise que les opérations de collecte des données pour l'actualisation des centres d'enrôlement se sont déroulées même dans les zones insécurisées, cela grâce à la collaboration des leaders communautaires et des autorités coutumières. Des détails avec Isaac Remoyope.
C'est depuis plus de 2 mois que le bureau provincial de la CENI en Ituri a déployé sur le terrain ses agents pour l'actualisation de la cartographie des centres d'enrôlement dans les différents territoires de l'Ituri. Cependant, plusieurs localités sont restées inaccessibles à cause de la présence des miliciens, surtout dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Face à ces défis, le bureau provincial de la CENI a multiplié le contact avec les chefs coutumiers et les notables pour obtenir l'adhésion des leaders des groupes armés, dont la CODECO et les FPIC à ces processus électoral. Ces derniers ont accepté d'accompagner toutes les phases du processus électoral dans cette province. Le responsable de la CENI en Ituri s'est réjoui que plus de 90% aient pu ainsi être recueillis pour l'actualisation des centres d'enrôlement. Pour lui, ces résultats sont dus également à l'accalmie observée dans plusieurs localités dans cette province après la signature des 2 actes d'engagement par les groupes armés pour la cessation définitive des violences. Il salue également les efforts du gouvernement provincial pour la restauration de la paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, le départ de certains députés du mouvement social MS de feu Pierre Lumbi et la radiation de Jean-Marc Kaboun de l'UDPS alimentent encore le débat politique ces derniers jours. Vous avez suivi le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Il a dernièrement revendiqué le siège de Kaboun à l'Assemblée nationale. Lors du dernier congrès du mouvement social, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, a annoncé la création de son parti avec le départ de près de 8 députés. MS qui n'ont pas voulu s'émuer au sein de la formation politique Ensemble pour la République. Mais que dit la loi au sujet du mandat des parlementaires? Jeff Ngoy Mulunda.
Le mandat d'un député ou d'un sénateur est d'attribution au parti politique ou au regroupement politique qu'il a présenté sous la liste aux élections. Selon l'article 110 de la Constitution, le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Maître Willy Wenga explique.
Lorsque un parti politique, un regroupement venait à radier un député élu sur sa liste, il est clair que le député ou le sénateur s'en va avec le mandat. Et lorsque le député ou le sénateur quitte délibérément le parti politique ou le regroupement, à ce moment-là, il perd le mandat.
Jean-Marc Kaboun n'a pas délibérément quitté son ancien parti.
S'agissant de Marc Kaboun, lui avait déjà perdu la qualité d'être membre de l'IDPS du fait qu'il avait été radié. Donc l'IDPS aujourd'hui est pris dans son propre piège d'avoir radié un de ses membres. Et le fait d'être radié, Jean-Marc Kaboun était parti avec le mandat.
La question est maintenant de savoir si le parti que le ministre représente au gouvernement peut réclamer le poste occupé par son ancien sociétaire. Des cas de jurisprudence renseignent que le ministre peut conserver son poste. C'est le cas notamment de la vice-ministre de la Défense nationale à qui le parti en vol de Deli Sessang avait jadis exigé sans succès son départ du gouvernement.
Direction le Nord Kivu, ce double meurtre enregistré la nuit dernière dans la chefferie de Bachou, territoire de Beni. Il s'agit de Mwami Abdoulatif Mbatangouli, chef honoraire de la chefferie, et de son épouse. Selon plusieurs sources sur place, des inconnus ont fait incursion à la résidence de la victime dans l'agglomération de Issal et Voulambo. Le notable a été tué sur place à l'arme blanche et son épouse, prise en otage, a été exécutée un peu plus loin de leur domicile. Son corps a été retrouvé ce jeudi matin. Pour l'instant, le mobile de ce double meurtre, ni ses auteurs, ni sont connus. Les autorités coutumières de Bachou annoncent l'ouverture des enquêtes à ce sujet. Par ailleurs, des mouvements de déplacement continuent à s'observer dans le territoire de Rutshuru, toujours au nord Kivu. Ce sont les habitants des groupements des Jomba et Bweza, notamment. Des dizaines de familles sont arrivées mardi et mercredi sur les sites des déplacés situés dans le territoire de Niragongo. Ils s'ajoutent aux milliers d'autres qui y ont trouvé refuge depuis environ un mois maintenant. Selon le président du comité des déplacés de Kanyaruchinya, ces nouvelles personnes déclarent avoir quitté préventivement leur village. Elles disent craindre la reprise éventuelle des affrontements entre l'armée et le M23. Toutes ces personnes déplacées réparties dans 21 sites vivent dans des conditions difficiles. Rappelons qu'une accalmie s'observe sur la ligne de front depuis près de 2 semaines environ. Arrêtez de vous entretuer et vivez en paix, car vous êtes tous frères et sœurs. C'est l'appel du député national Ntumba Tshabola Bintou aux communautés du territoire de Katanda. Depuis la semaine passée, des affrontements communautaires ont dans cette partie du Kasai oriental causé mort d'hommes, des dégâts matériels importants et des déplacements des populations. L'élu de Katanda explique aussi aux populations que ces affrontements empêchent le développement de cette entité. Parmi les recommandations qu'il formule à l'endroit des autorités, il demande notamment au ministre de l'Intérieur d'imposer la paix par la force. On écoute le député provincial, le député national Ntumba Tshabola Bintou, joint par Alain Rumushinji.
Nous avons appris avec tristesse la résurgence des conflits communautaires dans notre territoire de Katanda, dans les secteurs de Balubalu-Bilanji, dans les villages de Bakwachitongo, Mbumbu, Mwembia, Kapuya et Katabwa. Les conflits qui opposent les Benanshimba, Benamwembia et Benakapuya, depuis la semaine passée en date du 14 au 15 juillet jusqu'à ce jour, ayant entraîné mort d'hommes, plusieurs dégâts matériels, l'incendie de plusieurs maisons. Voilà pourquoi nous demandons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'agir maintenant en imposant la paix totale à Katanda d'abord par la force, d'organiser un forum de réconciliation, de pardon, d'entente entre les enfants de Katanda, de relever tous les policiers et militaires ayant déjà fait plus d'une année dans les territoires de Katanda, d'échanger le statut de Katanda des territoires en ville, à la population de Katanda en général et celle des secteurs de Balubalu-Bilanji en particulier, de privilégier la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Aux protagonistes en conflit permanent, inutile d'arrêter de faire couler le sang de nos compatriotes innocents.
Actualité internationale.
L'Égypte et la Serbie ont convenu mercredi de renforcer leur coopération politique et économique. Les deux pays cherchent ainsi des moyens de faire face à l'impact mondial de l'invasion russe en Ukraine. La Russie n'a plus pour objectif de prendre seulement le contrôle de l'Est de l'Ukraine, mais a élargi ses ambitions, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères russe. Sergei Lavrov affirme que la géographie changeait en Ukraine et que la Russie souhaitait aussi intégrer les régions méridionales de Kherson et de Zaporijja, mais c'est justement dans cette partie du pays déjà partiellement occupée que les autorités de Kiev semblent préparer une contre-attaque.
L'invité.
La coopération suisse en RDC poursuit avec des activités d'appui au développement jusqu'en 2025 pour un financement d'environ 29 millions de dollars, des activités concentrées essentiellement dans les deux provinces du Kivu et celle de l'Ituri. Quelle analyse faire des activités qui bénéficient de l'appui de la coopération suisse au sud Kivu? Pour en parler, nous recevons Madame Denise Louti, directrice de la coopération suisse en RDC. Elle répond aux questions de Emmanuel Elamegi.
Madame Denise Louti, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous sortez d'une réunion avec le chef de bureau de la MONUSCO. On peut savoir, coopération suisse avec la MONUSCO, de quoi vous avez parlé aujourd'hui?
La MONUSCO, comme nous sommes un partenaire sur le niveau multilatéral de la MONUSCO, comme beaucoup des États occidentaux, mais aussi des autres zones du monde, est un partenaire qui pour nous est important de nous aider avec les différentes analyses, les différentes perspectives de ce qui se passe dans la province. Donc, ajouter les analyses de la MONUSCO à des autres analyses que nous avons avec nos partenaires locaux, avec les autorités, avec les institutions religieuses. Ça donne une image ou une visibilité complète de ce qui se passe dans la province et nous avons besoin de ça pour faire notre travail dans une bonne manière.
Vous avez eu un écho favorable du responsable de la MONUSCO.
Nous sommes aussi ici dans la province du Sud Kivu, le seul donateur, presque le seul donateur bilatéral qui a son siège dans la province et pas Kinshasa. Donc, nous sommes, comme acteurs de développement, nous avons une certaine importance et je pense que c'est aussi intéressant pour la MONUSCO de nous recevoir pour échanger sur l'évolution de la province.
Alors, on peut savoir, la coopération suisse travaille au Sud Kivu principalement dans quel domaine? Quels sont les secteurs principaux?
Nous travaillons dans trois secteurs. Le premier secteur est la gouvernance, prévention de conflits et la protection des civils. Après, on a un deuxième secteur qui est la santé et nutrition. Et le troisième secteur est le développement économique et la formation professionnelle.
C'est principalement dans quel territoire, hein?
Nous avons un couvrage assez fort. Les différents secteurs couvrent des différents territoires. On est dans la ville de Bukavu, dans les différents quartiers, mais on travaille aussi à Krapare, Kalehe, on travaille en Uvira et partiellement encore dans des autres territoires.
Les activités sur terrain, ça a un bon impact dans la communauté?
Nous croyons que nous avons un bon impact. Maintenant, c'est clair que le travail dans la province, c'est pas facile. C'est un défi majeur. Il y a beaucoup de défis du point de vue de la logistique. On a des défis aussi de point de vue financier parce que les besoins sont plus grands que ce que nous pouvons faire. C'est clair toujours. Mais nous croyons avec notre manière d'accompagner les autorités, mais aussi les organisations ici locales, nous avons quand même un impact considérable et nous sommes contents avec le travail et avec la coopération notamment entre les différents acteurs et la coopération suisse.
La coopération suisse sera encore là pour longtemps pour appuyer tous ces secteurs-là au Sud Kivu?
C'est un petit peu difficile de dire combien de temps on va rester dans le Sud Kivu. On a juste reçu l'approbation de Berne, de notre capitale, de continuer avec notre programme jusqu'à l'année 2025. Mais nous allons aussi, comme nous sommes une agence de développement avec un bras humanitaire qui est très important aussi, mais nous avons toujours, quand nous travaillons avec les partenaires, les pays partenaires, nous avons toujours une perspective long terme pour avoir les résultats que nous souhaitons. Et nous sommes très conscients que ça va durer, l'impact, jusque nous avons un impact avec notre travail, ça dure. Et on a besoin du temps pour faire le travail dans une bonne qualité.
La hauteur du financement, on peut connaître l'enveloppe?
Oui, l'année passée, on a eu pour les trois provinces, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, un financement de 28 à 29 millions de dollars.
Madame Denise Louty, je rappelle que vous êtes directrice de la coopération suisse en RDC. Merci.
Merci à vous.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.